Une proposition qui risque d'aggraver les tensions entre les Calédoniens. C'est ce que craignent les loyalistes et le Rassemblement après la proposition de loi organique sur le corps électoral du sénateur Georges Naturel. Une visite communale à Lifou pour le nouveau commissaire Jacques Billan. La situation économique de la province des îles a été évoquée avec son président Mathias Ouaneux, tout comme le développement touristique. Cela faisait 25 ans que ce n'était pas arrivé en Nouvelle-Calédonie. Virginie Peslet a été nommée nouvelle mandataire judiciaire. Elle devient donc la seconde à exercer ce métier sur le territoire avec Marie-Laure Gasteau. En raison d'une augmentation du nombre de décès sur la commune depuis quelques années, Dumbéa a inauguré ce matin un nouveau cimetière à Katiramona, un projet de 300 millions de francs. Nous avons parlé tourisme ce midi dans notre magazine Citoyen. La province Nord et la province Sud évoquent des difficultés de reprise du secteur, mais restent toutefois confiants quant à l'avenir. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Une proposition de loi organique pour modifier le corps électoral. Elle émane du sénateur Georges Naturel, mais elle est loin de faire consensus. Les loyalistes et le Rassemblement dénoncent une initiative solitaire et dangereuse. Et l'association Un cœur, une voix parle d'un texte inacceptable, Elisabeth Noir.
Et si l'on reparle du corps électoral, c'est parce que le sujet redevient d'actualité avec la perspective de l'organisation des élections provinciales avant la fin du mois de novembre. Or, le corps électoral provincial ne peut plus être gelé, mais on recherche en vain un consensus pour son ouverture après la suspension de la réforme constitutionnelle de l'an dernier. Après le départ de Manuel Valls, le député Nicolas Metzorf avait annoncé le dépôt d'une proposition de loi organique à l'Assemblée nationale pour modifier le corps électoral. Et hier, c'est le sénateur Georges Naturel qui annonçait sur ses réseaux sociaux qu'il avait déposé au Sénat une proposition de loi organique qui permettrait, selon ses termes, une actualisation du corps électoral provincial avec des objectifs plus modestes qu'un dégel. Selon lui, cela permettrait d'accorder à quelques milliers de Calédoniens le droit de vote aux prochaines provinciales. Sa proposition vise à accorder le droit de vote aux élections provinciales à toutes les personnes nées en Calédonie et ayant eu le centre de leurs intérêts matériels et moraux, à toutes les personnes ayant le statut civil coutumier, aux petits-enfants de citoyens calédoniens et à toutes les personnes ayant un de leurs ascendants nés en Calédonie et y ayant leurs intérêts matériels et moraux. Les loyalistes et le Rassemblement ont pris connaissance de cette proposition et ils dénoncent, je cite, une initiative qui, sous couvert d'ouverture, introduit en réalité une inégalité flagrante entre les citoyens calédoniens en provoquant une rupture d'égalité profonde entre Calédoniens de statut coutumier et Calédoniens de droit commun. C'est ce que déclarait ce midi sur notre antenne Virginie Rufnak, chef du groupe Rassemblement au Congrès de la Nouvelle-Calédonie.
Alors, ce qui nous dérange beaucoup dans ce texte, c'est que vous savez, en matière de corps électoral, ces dernières années, on souffre de beaucoup d'exclusion et de discrimination. Et malheureusement, cette proposition de loi organique vient maintenir une discrimination fondamentale, puisque M. Naturel, par loi organique, ajoute quatre catégories. Et dans ces quatre catégories, il y a donc les statuts coutumiers, et puis il y a les natifs de la Nouvelle-Calédonie, ceux qui sont nés en Nouvelle-Calédonie, mais alors ceux-là, eh bien, ils doivent justifier qu'ils ont le centre de leurs intérêts matériels et moraux en Nouvelle-Calédonie. Donc en fait, non seulement on fait une discrimination entre selon que vous êtes de statut coutumier où vous n'avez rien à prouver, et selon que vous êtes de droit commun, un Calédonien de droit commun, où là vous allez devoir prouver, encore mettre votre vie sur la table pour justifier que vous avez bien un attachement avec notre territoire. Donc c'est une grande injustice et nous voulions arrêter les injustices en matière électorale.
Le corps électoral peut donc être en partie modifié par la loi organique. Virginie Rufnak nous précise les catégories que les loyalistes et le Rassemblement voudraient voir intégrées dans le corps électoral provincial.
Il y a des catégories, une catégorie qui nous tient à cœur, c'est celle des conjoints de Calédoniens. Or, elle ne figure pas dans la proposition de M. Naturel. Et là, ça peut être modifié par loi organique, ça. Et puis, il y a ceux qui ont un enfant né en Nouvelle-Calédonie. Vous avez votre famille, vous y vivez, vos enfants sont nés en Nouvelle-Calédonie. Quoi de plus pour montrer son attachement à la terre calédonienne? Eh bien, tout ça n'y figure pas. On a les statuts coutumiers. Les natifs, eux, devront donc prouver de manière très complexe et nous allons nous battre, si jamais cette proposition venait à être adoptée, ce qui n'est pas encore le cas, mais à nous battre sur ces cas-là. Donc, évidemment, nous sommes désolés qu'il n'y ait pas eu de concertation et que nous n'ayons pas pu travailler de concert. Là où l'unité des partisans de la France est née.
La proposition de loi organique du sénateur Naturel maintient une discrimination. C'est aussi le reproche que lui fait l'association Un cœur, une voix, Dans un communiqué, elle parle de trahison des idéaux de la République et elle dénonce une rupture d'égalité. Son président Raphaël Romano nous a dit ce qui lui déplaît dans ce projet.
Ce qui nous déplaît, c'est encore une fois la création de différences. On voit bien qu'on crée des catégories, des sous-catégories. Ça rappelle des heures sombres de notre histoire. C'est-à-dire qu'on est limite à dire une personne pourra voter, une autre personne ne pourra pas, une pourra voter un peu, une pourra voter un peu moins et une pourra voter un peu plus. C'est plus possible. On voit bien l'aberration du système et c'est un peu ce qu'on a dénoncé et ce qu'on dénonce avec nos avocats. Aujourd'hui, les lois organiques, elles doivent passer par le Conseil constitutionnel. La loi qui est proposée, à notre sens, ne pourra pas passer de toute façon parce qu'elle est en rupture totale d'égalité entre les citoyens.
Et le président de l'association Un cœur, une voix va jusqu'à parler d'aberration.
Vous vous rendez compte de l'aberration à laquelle on va assister ? C'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont là depuis 27 ans, qui ont des enfants, qui ont 27 ans. Et donc, si on réintègre que les natifs, comme le propose le sénateur Naturel, eh ben, leurs enfants pourront voter. Ça fait 27 ans qu'ils sont sur le territoire et qu'on est sur le territoire. Et leurs parents, qui eux sont aussi là depuis 27 ans, voire plus, eh ben, ils ne pourront pas voter. On voit bien l'aberration du système. C'est une rupture d'égalité de traitement.
Voilà pour les différentes réactions. Rappelons que le député Nicolas Metzdorf devrait donc déposer lui aussi un projet de loi organique sur la modification du corps électoral, mais devant l'Assemblée nationale. Quant au ministre des Outre-mer, Manuel Valls, il envisage, dans le courrier qu'il a adressé aux délégations politiques, des élections provinciales à corps électoral constant, c'est-à-dire non dégelé, sauf à ce qu'un accord institutionnel soit intervenu auparavant.
Le haut-commissaire Jacques Billon en visite de terrain à Lifou aujourd'hui. Une journée chargée où de nombreuses rencontres étaient programmées. L'occasion d'échanger avec les institutions, la population, mais aussi de visiter les installations soutenues financièrement par l'État sur la commune. Jacques Billon a pris ses fonctions de haut-commissaire début mai, soit il y a moins d'un mois. Ces déplacements sont donc d'une utilité primordiale pour mieux connaître le territoire, explique-t-il.
C'est un engagement que j'avais pris dès mon arrivée, aller sur le terrain à la rencontre des acteurs pour apprendre à connaître les territoires de la Nouvelle-Calédonie. Donc ça a été le cas ce matin avec ce deuxième déplacement dans les îles Loyauté, puisque j'avais accompagné précédemment le ministre lors de sa visite à Marais, et aujourd'hui donc ce rendez-vous à Lifou.
Le haut-commissaire a tout d'abord échangé avec les agents de la subdivision administrative des îles Loyauté avant de s'entretenir avec le président de la province des îles, Mathias Oineux. La situation financière de la province des îles a été évoquée, cette dernière est endettée à 7,5 milliards de francs et l'État accompagnera la province dans son plan de redressement, explique Jacques Billon.
On a bien sûr appréhendé les enjeux du plan de redressement financier de la collectivité, de l'accompagnement de l'État dans le cadre de ce plan de redressement. Et on s'est fixé, des rendez-vous très précis pour finaliser les modalités de cet accompagnement. C'est tout un dispositif spécifique d'accompagnement avec bien sûr un volet financier, mais aussi un accompagnement technique. Il y a différentes modalités qui vont constituer ce plan d'accompagnement que l'on souhaite finaliser.
S'en est suivie une rencontre avec le maire de Lifou, Nekone Peoun, pour partager sur les enjeux d'aménagement et de développement de l'île qui doivent permettre une relance économique.
On est sur des projets importants parce que la gestion des réseaux est un sujet essentiel pour les maires des communes de Nouvelle-Calédonie. Et c'est aussi le cas pour Lifou. Quand je parle des réseaux, je parle des voiries, je parle de l'adduction en eau potable et bien évidemment des projets autour du développement du tourisme, puisque c'est un secteur sur lequel les îles Loyauté investissent actuellement. On a pris rendez-vous avec le président de la province et avec les maires pour poursuivre bien sûr ces visites de terrain qui nécessiteront plusieurs venues de ma part, dont les sujets sont nombreux et importants.
Le haut-commissaire s'est ensuite rendu cet après-midi sur le site DSO Nord de Lifou pour évoquer le développement du tourisme de croisière et ses perspectives. Enfin, sa visite communale s'est achevée par une rencontre avec les gendarmes de Répéné. La prochaine tournée communale est déjà prévue. Jacques Billon doit se rendre en province Nord dès ce jeudi.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Notre question du jour. Après avoir été élu président des Républicains, Bruno Retailleau doit-il, selon vous, rester au sein du gouvernement comme ministre de l'Intérieur? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à notre question d'hier, 88% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS pensent que Manuel Valls a tort de réunir un comité de suivi avant la fin du mois de juin pour poursuivre le dialogue politique sur la base de son projet de souveraineté avec la France. Ils sont 12% à penser qu'il a raison de le faire. Notez ce rendez-vous sur notre antenne. On sait que le secteur de la santé est en grande difficulté, marqué notamment par un manque de soignants. La situation est également compliquée pour les ambulanciers et nous en parlerons demain matin à 7h30. Notre invité sera en effet Camilo Queletaona, directeur des ambulances Saint-Jacques. 17h56, première pause dans ce journal avant de voir le reste de l'actualité sur le territoire.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'église du Vœu, 30 51 30.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu? Confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegales@rrb.nc ou au 25 46 46. RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La Cinef au soir, Léana Colombo.
Et c'est une petite révolution. Cela faisait 25 ans qu'aucun nouveau mandataire judiciaire n'avait été désigné sur le territoire. Et Jean-François Bodin, c'est désormais chose faite.
Virginie Peslet a en effet été inscrite sur la liste des mandataires de justice en qualité de mandataire judiciaire. Cette décision a été prise par la Commission des mandataires de justice, une instance qui dépend du gouvernement et qui s'est réunie sous la présidence de Christopher Gigès. C'était une décision attendue, nous a-t-il dit.
Elle était très attendue par le monde économique, à la fois par les entreprises qui sont en difficulté et également les créanciers. Ça fait 25 ans qu'on n'avait pas nommé au niveau de la Nouvelle-Calédonie un nouveau mandataire judiciaire. J'ai présidé cette commission il y a quelques jours, donc on a eu une nouvelle mandataire judiciaire qui a été nommée. En 2019, on avait passé la loi de relance où on avait fixé les dispositions pour faciliter l'installation d'un nouveau mandataire judiciaire. Malheureusement, les dernières années n'ont pas permis de mettre en place cette commission. Donc c'est une très bonne nouvelle pour à la fois l'accompagnement des entreprises et aussi favoriser un rebond, mais aussi les créanciers qui sont dans une difficulté en ce moment.
Une bonne nouvelle car le premier rôle d'un mandataire judiciaire est d'abord d'accompagner les entreprises en difficulté. C'est donc particulièrement important.
Le mandataire judiciaire, en fait, il accueille le chef d'entreprise qui est en difficulté pour voir dans quelles dispositions il peut l'accompagner sur de la sauvegarde, sur du redressement, sur de la liquidation. Et il priorise les remboursements des différents créanciers. Mais il y a un travail également très humain de pouvoir accompagner le chef d'entreprise dans sa capacité à rebondir par la suite. Il y avait un engorgement sur la seule mandataire judiciaire qui était nommée actuellement et donc qui ne permettait pas forcément peut-être d'avoir cet accompagnement des différents chefs d'entreprise.
Et le gouvernement, dans un communiqué, se félicite de cette avancée. Non seulement elle répond à un besoin, comme l'a rappelé Christopher Gigès, mais elle témoigne aussi de la volonté des institutions de garantir un environnement juridique plus adapté et plus réactif face aux enjeux économiques du territoire, peut-on lire dans le communiqué du gouvernement. Jusqu'à présent, Marie-Laure Gasteau était la seule à exercer cette fonction de mandataire judiciaire sur le territoire. Virginie Peslet va la rejoindre dans quelques temps. Avant de prendre officiellement cette fonction, elle devra en effet prêter serment devant le tribunal. Docteur en droit privé, Virginie Peslet a d'abord été professeure à l'Université de Montpellier, puis à l'Université française du Pacifique, devenue depuis l'UNC. Elle s'est ensuite orientée vers le secteur bancaire, dans lequel elle a essentiellement travaillé au contentieux et à la direction des affaires juridiques. Elle a suivi l'an dernier une formation spécifique à la fonction de mandataire judiciaire en métropole.
Et l'actualité judiciaire aux assises, les jurés condamnent à 15 ans de réclusion criminelle l'homme de 55 ans accusé de viol sur sa compagne. Après avoir entendu des experts légistes, psychiatres et psychologues, les jurés ont décidé de suivre les réquisitions du ministère public. À partir de demain, examen. C'est une nouvelle affaire qui sera jugée aux assises. Il s'agira de la dernière affaire de mœurs examinée dans cette session. Les jurés se pencheront sur un viol sur mineur de 15 ans. Les faits se sont déroulés à Nouméa entre 2015 et 2020 et la victime était âgée de seulement 7 ans au début des faits. Écoutez les précisions de Philippe Faisandier, procureur général de Nouméa par intérim.
Dans l'affaire du viol sur le mineur de 15 ans, comme très souvent en la matière, la révélation des faits est extrêmement tardive et souvent fortuite. Là, la révélation des faits est arrivée par un biais particulier, c'est-à-dire que l'accusé téléchargeait des vidéos pédopornographiques et c'est à l'occasion d'une cyberpatrouille que ces téléchargements ont été détectés. Une enquête sous cet angle-là a d'abord été ouverte, puis les investigations ont révélé qu'au-delà de ces téléchargements, il y avait également une affaire de viol sur mineur.
L'agresseur qui ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés est désormais âgé d'une cinquantaine d'années. Il est actuellement en détention provisoire. Un tout nouveau cimetière à Dumbéa. Il a été inauguré ce matin par le maire de la commune, Johan Lecourieux. Un cimetière nécessaire pour répondre aux besoins des administrés. Cimetière qui est situé au bord de la RT1 à Katiramona. Et un projet qui répond à la saturation du cimetière du Calvaire, qui ne dispose plus que d'une dizaine de concessions restantes. Et aussi à l'augmentation du nombre des décès dans la commune. Plus de 600 par an depuis l'implantation du Medipol en 2017. Johan Lecourieux, maire de Dumbéa.
C'est un équipement nécessaire et indispensable pour la commune parce que notre cimetière actuel était saturé. Et donc on voit que le nombre de personnes décédées sur la commune augmente. C'est un projet que nous travaillons depuis 2020 avec l'acquisition du terrain dans un premier temps. Puis après l'aménagement qui a traversé en plus des périodes compliquées avec l'année 2024. Mais on a réussi à livrer aujourd'hui un bel équipement qui va être là pour les 12 ans à venir dans sa première phase d'aménagement, mais qui peut être exploité aussi sur 40 à 50 ans.
D'une superficie de plus de 2 hectares, ce nouveau site offre 485 emplacements traditionnels, 124 caveaux, 36 urnes funéraires, mais aussi des espaces dédiés aux confessions juives et musulmanes, aux enfants et aux indigents. Un jardin du souvenir et une aire de condoléance y ont également été aménagés, explique Johan Lecourieux.
Plusieurs carrés qui ont été travaillés avec l'ensemble des communautés religieuses et autres qu'on a reçus depuis de nombreuses semaines. Puis on a replacé avec eux parce qu'il y a des positions de corps qui sont très particulières aux unes et aux autres. Donc on a fait la visite aussi, une pré-visite du chantier avec eux pour bien redéfinir les emplacements que l'on avait initialement définis avec eux. En plus d'un préau de plus de 100 mètres carrés pour pouvoir accueillir les condoléances des familles. Donc on a essayé de vraiment amener un service qui était supérieur à l'ancien cimetière.
Les travaux lancés en 2022 ont coûté un peu plus de 300 millions de francs à la commune de Dumbéa. En bref, cette information pratique, je vous rappelle que c'est aujourd'hui la date limite de déclaration des revenus pour les particuliers résidant à Nouméa et qui ont choisi d'opter pour une déclaration en ligne. Les résidents hors Nouméa ont encore une semaine pour télédéclarer leurs revenus. La date limite est fixée au mardi 27 mai. 18h passées de 3 minutes, l'heure de marquer une seconde pause dans ce journal. A tout de suite.
Savez-vous qu'il est préférable de ne pas dépasser de 8 degrés l'écart entre la température intérieure et la température extérieure ? Sachez aussi qu'une habitation bien isolée permet de gagner jusqu'à 5 degrés de température intérieure.
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Laisse-moi dédier cette chanson pour maman.
Du 19 au 23 mai sur Radio Rythme Bleu, chantons les mamans. Pour participer, c'est facile. Dès que retentit le signal jeu Chantons les mamans, vous appelez RRB au 25 46 46. Le premier auditeur ou la première auditrice, enfant ou adulte, qui chante une belle chanson pour sa maman en direct, gagne un cadeau offert par nos partenaires Creator, Factory Store, Happy Flower, Vivre un instant parfumé, des stations Shell et Pacific. Chantons les mamans, c'est du 19 au 23 mai sur RRB.
RRB, première radio d'information.
La suite du journal avec vous, Léana Colombo.
Le tourisme est en difficulté depuis les violences de l'année dernière. Le secteur connaît un léger rebond. Les structures d'hébergement dans la province sud enregistrent 20% de taux de remplissage la semaine et entre 40 et 50% le week-end. Sud Tourisme accompagne les professionnels de la filière en province sud, comme nous l'a dit Eugénie Kerlot, responsable attractivité et communication de Sud Tourisme, ce midi dans le magazine Citoyen.
c'est vraiment d'être proche des prestataires touristiques, de les accompagner dans leur qualification, mais en tout cas dans leur peut-être la diversification d'activités pour s'adapter justement aujourd'hui aux attentes des Calédoniens. On a vraiment des enjeux de redynamisation de filières pour essayer de donner envie, comme je le disais, aux Calédoniens de redécouvrir. Donc on a, nous, au niveau de l'Agence d'attractivité Sud Tourisme, une plateforme de vente en ligne, un site inspirationnel qui est très complet, qui est donc un canal de vente supplémentaire aussi pour les prestataires qu'on inscrit sur ce site-là pour leur donner un maximum de visibilité, pour les aider aussi dans leur digitalisation. On a des offices de tourisme 5 en province sud et qu'on essaie en tout cas de les accompagner au mieux sur de la professionnalisation, sur de la visibilité, sur de la notoriété. On met en place des événements, on met en place des partenariats. Voilà, on essaie de vraiment de dynamiser au maximum la filière sur cette année qui est très particulière.
Judith Elselefen, directeur du GIE Tourisme Province Nord, accompagne aussi les professionnels du secteur à s'adapter à la nouvelle donne.
Il y a beaucoup d'appréhension à pouvoir se déplacer dans le Nord du fait de l'inquiétude, de l'insécurité, du sentiment d'insécurité. Et c'est aussi à ça qu'on doit faire face et on s'organise pour répondre à cette inquiétude. Il y a aussi du fait de l'insécurité ici, soit dans le Sud ou plus généralement dans leur lieu de résidence. Les gens ont du mal à quitter leur résidence principale. Donc ça aussi a un impact sur la fréquentation, lequel les gens ils sortent plus, quoi. Les gens qui viennent, et c'est ça qu'on remarque, dans le Nord, il y a beaucoup plus, contrairement à avant, c'est les gens viennent plus pour faire des activités, et ensuite le soir ils rentrent à la maison, quoi. Donc là c'est l'hébergement qui en prend un coup.
Flore Roudeau, chef du service tourisme à la direction du développement économique et touristique de la province sud, participait aussi à l'émission Citoyen ce midi. Nos trois interlocuteurs qui croient au tourisme comme une filière d'avenir en misant sur la qualité de l'accueil et l'authenticité. Une émission Citoyen à retrouver en podcast audio sur notre site internet rrb.nc. Un mot d'actualité dans la région pour terminer ce journal. Un ancien vice-premier ministre des îles Cook, Norman George, a demandé que 3 des principales responsabilités de l'archipel repassent sous contrôle de la Nouvelle-Zélande. C'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Norman George a estimé que l'accession des îles Cook à l'autonomie en août 65, ce qui lui a permis de devenir un État associé à la Nouvelle-Zélande, a été un échec. À l'en croire, la gestion politique du pays par l'actuel Premier ministre Mark Brown est antidémocratique. La souveraineté des îles Cook est un désastre, a-t-il déclaré. Elle est abusée par les politiciens et la démocratie est constamment bafouée. Norman George a donc demandé que la santé, l'éducation et la police repassent sous contrôle de Wellington. Il s'est également déclaré favorable à tout rattachement de l'archipel à la Nouvelle-Zélande. Mark Brown n'a, pour l'instant, émis aucun commentaire sur le sujet. Son homologue kiwi, Chris Luxon, s'est montré tout aussi circonspect. Toute évolution du statut d'État associé devra être décidé par les habitants des îles Cook, a-t-il dit. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Et nous passons tout de suite à la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Les couleurs du ciel, c'est avec vous, Nicolas.
Oui, alors cette nuit, les nuages resteront prédominants sur le territoire. Des averses localement soutenues se produiront encore par endroits en début de nuit, notamment sur les versants ouest, avec même quelques orages sur la pointe nord. Le vent de secteur est se maintiendra entre 5 et 10 nœuds. Il sera souvent variable faible sur l'ouest et localement accéléré entre 10 et 15 nœuds sur l'extrémité nord. Les températures minimales seront comprises entre 21 et 24 degrés. Demain matin, les nuages seront encore bien présents, même si de belles éclaircies apparaîtront sur l'ouest en cours de matinée. Des averses éparses intéresseront les loyautés et surtout la côte est. Le vent d'est à est-nord-est soufflera autour de 10 nœuds aux pointes nord et sud de la Grande Terre et aux loyautés. Il oscillera entre 5 et 10 nœuds sur la côte est, alors que la côte ouest sera déventée, Lana.
Et merci beaucoup, Nicolas. C'est ainsi que s'achève cette édition.